Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h09, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche, de 9h à midi. On est très heureux, évidemment, de vous retrouver, comme tous les samedis et dimanches matin. Avec ce matin, Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Fred Weiss, Jérôme Pinault. Dans quelques instants, Fabien Galthié est-il fragilisé par les affaires? Et évidemment, cette tournée en Argentine, ce sera le bras de fer. Si on me donne un papier et qu'on me dit de signer, pour éviter de parler à la presse, mais en réduisant mon salaire de 50%, je signe. Luis Enrique a fait sensation cette semaine en conférence de presse. Est-ce un discours entendable pour vos oreilles chastes ou insupportable? Ce sera la punchline à 10h30. 10h45, la crise de la soixantaine, signé Christophe Cessieux. Et si le hand passait des Jeux Olympiques d'été aux Jeux Olympiques d'hiver? Kezako, il va tout vous raconter. Ce sera à 10h45. Une information à vous donner, on l'a développée à 9h50, l'Agence mondiale antidopage qui fait appel dans le dossier Yannick Sinner et demande une suspension d'un à deux ans. On vous a donné déjà les premiers éléments, mais sachez évidemment que Marion Bartoli va travailler sur ce dossier aujourd'hui, les GG aussi, et on vous racontera tout ça demain dans les grandes gueules du sport à partir de 9h. Un rendez-vous également à vous donner, c'est l'UFC qui revient à Paris ce soir pour une troisième édition avec 14 combats au programme en présence de 9 Français, dont Benoît Saint-Denis qui va combattre en main event face au Brésilien Renato Moicano. Un engouement extraordinaire pour le MMA en France. Les 16 000 places de l'Accor Arena sont parties cet été en 4 minutes. Alors, dispositif exceptionnel ce soir sur nos antennes. À partir de 16h sur la chaîne Twitch d'RMC Sport, à partir de 20h30 sur RMC Sport 1, et ce sera même en clair sur RMC Découverte, canal 24 de la TNT, à partir de 22h pour les 3 derniers combats de la carte, et notamment évidemment celui de Benoît Saint-Denis. Vous allez vivre un moment magnifique à chaque fois. Vraiment, on se régale avec les équipes d'RMC Sport. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Ripide qui a dit un jour « Le silence est un aveu ».
RMC, le bras de fer GG.
On doit être exemplaire. Déjà, c'est le premier niveau à remplir pour être candidat à l'équipe de France. On peut faire la brève, on peut faire la brève. Même c'est très important, mais il faut la cadrer. On peut pas faire n'importe quoi.
Je te jure, le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque.
S'agissant de Melvin Jaminet, ça a été tolérance zéro, avec mise à pied conservatoire, et puis signalement au procureur, et saisine avec la Ligue nationale de rugby de la commission de discipline.
L'arrestation en Argentine de 2 joueurs de l'équipe de France de rugby.
Ils sont tous les deux accusés de viol.
Hugo Radou et Oscar Jégou ont été formellement mis en examen.
Cette succession d'affaires est dramatique pour toutes les parties prenantes.
Pour le groupe, pour la délégation, ça a été vécu comme un traumatisme.
2 mois et demi qu'il n'a plus pris la parole publiquement. Fabien Galthié est absent des débats après la tournée fiasco de son équipe en Argentine. Pendant ce temps-là, le président de la Fédé française de rugby, Florian Grill, continue de taper du poing sur la table. Et pour la première fois, il met Fabien Galthié devant ses responsabilités. Fabien Galthié est-il fragilisé? Dans le coin gauche, la team Oui, représentée ce matin par Jérôme Pinault, Christophe Cessieux et Marion Bartoli. Dans le coin droit, la team Non, représentée par Fred Weiss. Et il est extrêmement convaincu, il a beaucoup de choses à vous dire ce matin. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, spécialiste rugby, Winnie Claret. Salut Winnie.
Salut tout le monde.
C'est vrai que depuis cette fameuse tournée en Argentine, un homme est plutôt passé entre les gouttes dans la chaîne des responsabilités, c'est Fabien Galthié.
Alors jusqu'à hier, et les déclarations du président de la FFR, Florian Grill, qui remet les pendules à l'heure, tu le disais, JC, vis-à-vis du sélectionneur tricolore. Dans les colonnes de l'équipe, il prévient, avant, on préférait laver son linge sale en famille, ce n'est pas ma conception des choses. Florian Grill qui se dit en colère, j'ai envie que nos équipes de France et nos staffs comprennent la responsabilité qui est la leur, ceux qui ne le comprendront pas ne seront plus avec nous. Et le patron du rugby français nous apprend qu'en Argentine, il n'y a pas que 3 joueurs qui sont sortis, mais davantage, et ça pouvait même concerner les membres du staff. On ne nous a alors pas dit toute la vérité, il y aura un avant et un après. Il avait déjà fait à notre micro le week-end dernier, le président durcit le ton, et il n'épargne pas le sélectionneur. À la question, quelle est la responsabilité de Fabien Galthié sur les sorties nocturnes en Argentine, Grill répond, on admettait ces soirées, c'est fini. Est-ce que Fabien Galthié l'entend? Il n'a pas le choix, les salariés de la FFR doivent fonctionner dans ce cadre, ce n'est pas négociable. Il va donc falloir filer droit et le boss des Bleus n'est pas au-dessus des autres salariés de l'instance.
Ouais, et Fabien Galthié, lui, que pense-t-il de tout ça ?
Eh ben, c'est une bonne question, hein, parce qu'on n'a pas entendu ou lu Fabien Galthié depuis 74 jours. Ce qui n'est pas sans rappeler le long, trop long silence du sélectionneur après l'élimination des Bleus en quart de finale de la Coupe du Monde, il y a un an maintenant. Au lendemain de l'arrestation d'Oscar Jégou et Hugo Rad, au début juillet, le coach français était en conférence de presse pour la suite de la tournée. Et voilà ce qu'il disait alors.
La première des choses, je dois m'adresser à la victime. Nous avons une pensée pour la victime et tout est mis en œuvre de notre côté pour accompagner le travail de la justice argentine. Et tout est mis en œuvre aussi de notre côté pour accompagner les joueurs, je dis l'ensemble des joueurs, les joueurs concernés, mais aussi l'ensemble de la délégation pour vivre et traverser ce moment-là. Un moment, un instant, une période très difficile pour nous.
Voilà, Fabien Galthié qui rappelait aussi que le staff de l'équipe de France était très exigeant sur le règlement, mais aussi sur la liberté, l'autonomie et la responsabilité des joueurs. Ce cadre de vie du 15 de France, le sélectionneur en avait fait la grande cause de son premier mandat, en prenant entre quatre yeux chaque rugbyman pour lui soumettre le code de conduite tricolore. C'était à prendre ou à laisser. Visiblement, ça s'est raté et le silence de Fabien Galthié signifie quelque part qu'il n'a pas vraiment de compte à rendre.
Merci beaucoup Winnie Claret, tu restes avec nous pour ce débat évidemment. Fabien Galthié est-il fragilisé? C'est le bras de fer des GG, vous êtes nombreux à voter. On vous a posé la question sur le compte X des grandes gueules du sport, c'est assez partagé. C'est du 58-42, 58 oui, il est fragilisé, 42% non. Fred, tu es derrière, donc tu commences, pourquoi non?
Ben déjà je me pose la question, en quoi il serait fragilisé? C'est quoi le job de Fabien Galthié? C'est d'être nounou au Géo ou c'est d'être sélectionneur de l'équipe de France?
Bah, c'est de tenir ses troupes.
Non, alors Marion, déjà, si tu me laisses pas terminer mon argumentaire, ça va être compliqué.
Bah, tu poses une question, non, Marion, très bien.
Tu poses une question rhétorique.
Vous n'aviez pas vu la nuance?
Pardonne-moi.
C'était une question rhétorique. Son job est évidemment d'être sélectionneur. C'est d'imposer un style de jeu, de montrer un style de jeu, d'être là, d'être présent, d'accompagner ses joueurs sur le terrain. Mais en quoi il doit s'occuper de ce qui se passe en dehors?
Bien sûr que non, t'as des règles de vie.
Des règles de vie, évidemment. Mais c'est pas du tout à lui de les faire respecter. Il y a des gens qui sont là pour faire respecter ces règles. J'ai été en équipe de France depuis que j'ai l'âge de 13 ans. À chaque fois qu'on allait en stage, il y avait un sélectionneur, un coach, évidemment, et il y avait une personne, un chef de délégation, un élu, qui était là pour faire respecter ça. Parce que t'as pas que ça à faire quand t'es sélectionneur. Tu dois faire des schémas de jeu, tu dois penser à ce qui se passe sur le terrain, etc. Alors évidemment, Fabien Galthié a dit, il faut se responsabiliser. Si déjà les joueurs sont pas capables de le faire, c'est d'une grande tristesse. Mais en plus, il faut que ce soit quelqu'un de la fédération qui représente ça. Et moi, je me pose la question. Mais c'est pas Jean-Marc Lhermé qui est plus en difficulté? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le dernier match de cette campagne affreuse où personne ne devait sortir, Jean-Marc Lhermé était venu pour régler ces affaires-là, était venu pour montrer la voie, pour dire il ne faut pas faire ça, il ne faut pas sortir, c'est pas bien. Mais les joueurs sont sortis quand même. C'est à qui la responsabilité? Jean-Marc Lhermé ou Fabien Galthié, qui lui est sélectionneur et qui s'occupe du terrain? Je me pose une vraie question par rapport à
alors
ça.
Si
et ça, c'est une vraie question auquel tu peux répondre, Marion.
Alors, si tu t'occupes du terrain, Fred, quand tu es nommé à la tête de l'équipe de France, tu commences pas ton discours à faire quatre pages dans l'équipe en disant « je vais recadrer, on va cadrer les sorties, il y a des valeurs, on va respecter,
si,
on va s'engager. »
Ils ont une feuille de route, mais c'est pas...
Non, la feuille de route, si tu l'écris toi normale. Sur la discipline... Alors tu l'as fait suivre.
Mais tu l'as fait suivre, mais pas par toi. Mais tu n'as pas que ça à faire.
Pour le coup, là, elle n'a pas été suivie.
Tu sais comment ça se passe? Suivre une équipe et s'occuper des sorties nocturnes, c'est ce que ça veut dire, s'occuper des sorties nocturnes? Ça veut dire être en bas de l'hôtel et attendre que les mecs sortent. Ça, c'est le respect de la responsabilité.
Ça veut dire donner l'exemple aussi, et ça veut dire faire respecter son discours à ses joueurs et mettre des cadres et des limites. Si tu dis la bringue, il faut la faire, c'est important de la faire. Mais par contre, attention, t'as perdu. Avec une jeune génération. On a eu ce débat-là déjà. On ne va pas re-rentrer dans ce débat.
Le
discours fondamental du rugby n'est plus du tout en phase avec le rugby moderne et le sport moderne.
Le discours fondamental, ce n'est pas le discours de Galthié, c'est le discours qu'il véhicule.
Mais Galthié fait partie de ça. La deuxième erreur qu'il fait, c'est que quand ça va bien, il est là. Quand ça va plus, il est absent
exactement.
Total.
Alors que
c'est pas sa responsabilité, peut-être, mais il est sélectionneur de l'équipe de France.
Il n'est la pas même équipe qui est de la FFR. Il n'est pas président de la FFR.
Il est président, mais il est sélectionneur de l'équipe dans laquelle deux joueurs à lui ont eu des vrais soucis. L'enquête est en cours. On ne jugera personne. On ne va pas porter un jugement avant que la justice nous l'ait faite. Mais ça pue quand même sérieux. Et un autre qui a fait des vidéos racistes, ultra-racistes. Ce sont ces joueurs.
Non, mais en quoi il peut intervenir sur celui qui a fait des vidéos ultra-racistes? En quoi il peut intervenir? Qu'est-ce qu'il peut faire?
Tu ne peux pas t'effacer quand ça ne va pas.
Non, mais en quoi un sélectionneur?
Tu condamnes.
Tu dois prendre la parole. Tu condamnes. Exactement.
Honnêtement, c'est de fait. Tout le monde condamne. C'est ça, évidemment.
Lui, on ne sait pas.
Il y a peut-être un problème sur le silence. Marion, j'arrive. Est-ce que sur le silence, toi, Christophe, toi qui es journaliste en plus, Est-ce que ça te gêne?
C'est ce que nous disait Winnie tout à l'heure. Galtier était un coutumier du fait. Galtier ne s'exprime que lorsqu'il a décidé de le faire, c'est-à-dire lorsqu'il est en responsabilité au moment des matchs du 15 de France. Là, je pense que sa prise de parole, au moment où il va recevoir les joueurs du 15 de France pour la tournée de novembre, qui ne va pas tarder à arriver, je pense que sa parole va être très attendu, très écouté aussi. Sa façon de s'exprimer aussi vis-à-vis de ses joueurs, de son équipe. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de gens de la fédération qui seront là pour écouter ce que Galtier a à leur dire et quelles sont les mesures qu'il va prendre justement pour essayer de resserrer les boulons. Parce que même si tu dis qu'il est sélectionneur et qu'il n'a rien d'autre à faire que de s'occuper du terrain, quand tu es le patron et que tu fais virer Raphaël Ibanez, qui était manager de l'équipe de France, parce qu'il faut il prenait trop de place pour Galtier, et bah tu prends la responsabilité, tu deviens donc le big boss de la tournée, et en tant que big boss de la tournée, il a une responsabilité, comme le président de la Fédé en une, comme Jean-Marc Lerman, toute la chaîne de direction a une responsabilité. Or, il était sur place, il était le sélectionneur, et d'après les propos de Grill, franchement...
Il a manqué à sa mission.
C'est ce qu'il laisse sous-entendre.
On n'a pas du tout la même lecture. Moi, quand je lis les propos de Grill, c'est justement, avant, il y avait des règles qui étaient appliqué, qui était basé sur l'autonomie, sur la responsabilisation, et on l'avait validé. C'est en tous les cas.
Non, on a fait confiance à Galtier.
Oui, mais donc
on l'a autorisé à faire ça.
Tu sais que c'est un employé, Galtier, de la fédération. Donc si le président de la fédération dit on veut changer ces règles de fonctionnement, il n'a qu'un mot à dire. Galtier est obligé de s'exécuter. Donc c'est pas ce qui a eu lieu. Donc pour moi, ben non, ça a été fait normalement, dans les règles. L'employé Galtier a fait ce qu'on lui a demandé de faire, et voilà, c'est tout.
Ok, Marion est révoltée notamment par le silence.
Je suis complètement révoltée. S'il vous plaît, allez voir à nouveau la vidéo de Melville Jaminet, parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de lui dire une phrase. Oui, juste dit. Alors, le premier arabe que je crois, je lui mets un coup de casse. Il ne l'a pas dit une fois, il l'a dit quatre fois. Quand vous êtes un sélectionneur et que vous avez un joueur qui se comporte de cette façon-ci, comment vous pouvez rester silencieux en ne disant pas en prenant la parole d'énormément, en disant je condamne de la plus grande force ces propos absolument inadmissibles. Bien évidemment que ce n'est pas lui qui allait les empêcher que son joueur prenne son téléphone et poste une vidéo sur Instagram avec une story. C'est évident, mais de pas dire un mot, je trouve ça absolument mais honteux. Mon mari est d'origine musulmane, quand je lis des propos comme ça et que je vois ça et que je vois un sélectionneur de l'équipe de France qui n'est même pas capable de prendre la parole pour dire je suis désolé, cette personne n'a rien à faire dans les rangs de l'équipe de France, il est exclu, et que ça soit Florian Grill
qui est obligé
de prendre
la parole. De la FFR,
Fred, tu dois prendre la parole, tu dois le dire. Je suis désolé de t'effacer de cette façon-ci en ne restant, en voulant pas parler uniquement quand ça l'arrange, uniquement quand on est un de force. Oui, il a rappelé quand il y a eu cette cacophonie de la Coupe du Monde où il a perdu. Il a mis je ne sais pas combien de temps avant de revenir sur ses propos.
Je suis complètement d'accord avec toi. C'était trop long parce que c'est du sportif.
Comme si, entre guillemets, monsieur était au-dessus de tout et que lui avait la science infuse et qu'il était capable d'avoir cette espèce de flèche du temps où il n'y avait que lui qui pouvait déterminer tout. Ça a été dit par Christophe Raphaël Ibanez qu'il trouvait qu'il prenait trop de place. Il l'a évincé. Je suis désolée d'avoir quelqu'un qui est aussi égocentré et qui n'est pas capable de reconnaître ces erreurs. Je trouve ça absolument honteux. Et que la Florian Grill soit obligée, entre guillemets, de dire ah ben alors les enfants, la récréation c'est terminé, hein. C'est pas bien de sortir, hein. C'est pas bien d'aller faire la branle. Il y a des fêtes qui ont été organisées pendant la Coupe du Monde en France. Je trouve ça normal. Je suis désolée, si t'es arrivé dans le foot, Didier Deschamps aujourd'hui serait plus sélectionné dans l'équipe de France. Donc il faut arrêter avec à chaque fois cette capacité de dire ah mais non, mais c'est pas la faute du sélectionneur, ah mais non, mais c'est des règles qui sont éditées par la FFR ou par la fédération et donc lui il fait que suivre. Non, à un moment donné vous avez des responsabilités, oui, vous êtes en charge de ces joueurs. Vous êtes en charge de l'image. Je suis désolée. Au minimum, tu prends la parole et tu te trouves outré du comportement de tes joueurs.
Je pense que.
Je valide à 100%. Je sens Marion remonter.
Mais moi, je suis outré. Je te pose la question
par rapport à ce que vient de dire Marion. On fait souvent, c'est vrai, et peut-être que parfois, il ne faut pas le faire, mais en l'occurrence là. Elle fait le pendant avec le foot. Imagine, ça se passe mal à l'étranger avec des joueurs de l'équipe de France. Il se passe à peu près ce qui s'est passé, quelque chose de similaire. T'imagines Didier Deschamps pendant plus de 70 jours, ne pas communiquer, ne rien dire, alors que c'est lui le patron du 15 de France. Non, mais le patron de l'équipe de France, patron du 15 de France, franchement, c'est la même chose. T'imagines? T'imagines cette pression
toi,
médiatique
pas,
et là,
tu vois pas Deschamps
là,
au même niveau
entre les gouttes, Fabien Galthié. On lui veut pas de mal, mais
c'est quelque chose de plus important que ça. Je pense que c'est quelque chose qui doit être fait par le président de la FFF. Alors
peut-être que le président de la FFF lui a demandé de ne pas l'ouvrir. Hein,
oui, voilà, c'est ça. On ne sait pas comment ça
s'est passé. Mais il ne peut pas, hier, dans le papier, le mettre en cause. Parce que si tu lis entre les lignes.
Tu l'as lu?
Il le met en responsabilité.
Le président, c'est moi. Lui, ce n'est qu'un employé.
Mais non, il n'est pas ce n'est qu'un employé.
Non, non, non.
C'est exactement ce qu'il dit.
Fred, il le met en cause. Il le met en cause. Il met son nom en pâture.
C'est exactement ce qu'il dit. Il est en train de dire les salariés, je prends les responsabilités. C'est à moi de parler.
Mais il est en campagne. Zap Grid, il est en campagne. Donc, à la rigueur, il est dans son rôle. Et c'est le président de la Fédé. Moi, je te parle qu'à. Attends, qui était en Argentine? C'est Florian Grill ou c'est Fabien Galthié?
Mais justement, et pourquoi l'Hermé?
Qui est le patron du 15 de France? C'est Florian Grill ou c'est Fabien Galthié?
Oui, mais pourquoi l'Hermé n'était pas là?
Parce qu'il était au congrès
de la FFR.
Parce qu'il était au congrès de la FFR.
C'est plus important que de se déplacer avec une équipe nationale?
Franchement, la tête de gondole, c'est Fabien Galthié. Il n'a rien dit depuis 3 mois.
C'est beaucoup trop facile, ça. Tu sais très bien que c'est pas possible de tout gérer.
Encore une fois, il parle à la tournée, c'est lui le patron.
N'importe laquelle, chacun a sa fonction. La fonction de Galthié, pour moi, elle n'est pas.
La chaîne des responsabilités, c'est compliqué à prouver. Et forcément, que Fabien Galthié, on ne va pas lui demander jusqu'à 3h du matin en bas de l'hôtel. Ça, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il ne dit rien. Il ne dit rien.
Oui, et tu sais, sur la chaîne des responsabilités.
De savoir. Moi, je préfère un mec qui se documente, qui sait exactement ce qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il va dire sur les deux?
Ça
fait long pour dire, pour prendre une vidéo, qui dit 4 fois, je vais donner un coup de casse au premier arabe qui se croise. Je suis désolé, ça fait long quand même.
Marion, sur sa responsabilité sur le sport, sur la défaite en Coupe du Monde, il a pris je sais pas combien de temps. Alors que ça, pour moi, c'est de sa responsabilité.
Tu peux pas parler que de sport quand t'es sélectionneur de l'équipe de France. Ce serait naïf, non?
Moi, j'aimerais.
Et Fred, en tout cas, mon équipe de France de tennis, je peux pas parler pour les autres sports. J'y ai pas été, mais j'étais sélectionnée de l'équipe de France de tennis. C'était Amélie Mauresmo qui était ma capitaine. Je peux vous dire que les règles de vie, elles étaient éditées, elles étaient extrêmement claires. Et la première qui branchait, c'était terminé, c'était exclusion directe. Il n'y avait pas un intendant qui était là en train de surveiller.
Marion, ils n'ont pas branché en face de lui. Ils ont branché en passant.
On avait des règles de vie. C'est ce qu'on appelle des règles de vie. Des règles de vie, c'est que tu dois être à une certaine heure dans ta chambre, tu dois être à une certaine heure au petit déjeuner. Téléphone portable sont interdits, ce qu'on appelle des règles de vie en équipe.
Tout le monde a des. Okay. Ce genre de règles et tout le monde passe outre. C'est une évidence. Tout le monde le fait, même au basket. Ou alors, on n'a pas l'habitude de la troisième mi-temps. Bien évidemment que nous aussi, on transgresse les règles. C'est fait pour ça, les règles, parfois.
Ce qui est terrible, c'est que Christophe. Lors de cette tournée en Argentine, il y a eu ce qui s'est passé à Mendoza avec Jégou et Oradou. La semaine d'après, l'équipe de France a disputé un autre match à Buenos Aires, c'est ça?
Il y avait donc Argentine. Il y a eu cette fameuse soirée juste après le premier match. L'Uruguay le mercredi et le samedi, l'Argentine
voilà.
À nouveau.
Et que lors de l'après-match, donc face à l'Argentine, les joueurs ne devaient pas sortir.
Ils sont quand même sortis une partie.
En posant la question à qui? Jean-Marc Lhermé, c'est lui qui l'avait dit. En posant la question à Jean-Marc Lhermé. Donc Jean-Marc Lhermé a validé le fait qu'il puisse sortir.
Mais sur le coup, lui, il était sur un débat. Il ose ne serait-ce que lui poser la question. Et il avait dit que si c'était ça, c'était dans un cadre très strict.
Exactement.
Où derrière, on rentrait, on boit un coup, on mange.
On l'a dit tout à l'heure, dès qu'il y a des règles, c'est fait pour être transgressé.
Mais Fred, un sélectionneur.
Tu peux pas à chaque fois dire, mais il y a des règles, c'est fait pour être transgressé, puis on s'en fout, et puis ça n'a pas d'importance. Non, je suis désolé. Mais regarde l'été. Du rugby, mais regarde ce qui s'est passé en cascade.
Malheureusement,
mais regarde où on en est là.
Jérôme.
Non, mais je suis pas d'accord avec Fred.
C'est quand tu pars en tournée et que t'es le patron et que tu regardes la hiérarchie présente sur place, le représentant de l'équipe de France et donc de la délégation, c'est Galthié à ce moment-là.
C'est le plus haut gradé,
on va dire. Et le mec qui part pour faire des perfs. On est d'accord? On parle d'un sport quand même. On parle d'un sport qui porte le coq, qui représente l'équipe de France. Et déjà sur place, il autorise certaines choses en disant ça va être à peu près cadré. Ça part en couille totale. Tu peux plus te cacher. T'as autorisé à ce que ça parte en couille. Pour une compétition. Ils partaient pas faire la fête. Hein.
Après, c'était les usages.
Mais il faut arrêter avec ça.
Rappelez-vous que ces usages ont permis d'avoir beaucoup de résultats quand même avec Galthié.
Mais c'est fini. Avec la génération là, c'est fini.
Là, ça pète à la gueule. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les usages habituels de Galthié ont permis à l'équipe de France de progresser.
Il y a une faute d'analyse de ton groupe. Il y a une faute d'analyse de ton groupe et des personnes que tu as dans ton groupe.
Quand tu partais en tournée ou quand tu es allé sur le tournoi des
sportifs. changé, Christophe.
Plus,
c'est plus les mêmes.
Plus dans les tournées les d'été, mêmes. Où c'est considéré un peu comme les vacances. Tu vas,
c'est plus comme
c'est là, c'était développement. Exceptionnellement jeune en moyenne d'âge.
Et il s'est passé beaucoup de choses.
La génération actuelle de rugbyman ne peut pas avoir les mêmes règles et les mêmes faits que la génération d'avant. C'est plus la
exactement.
Même génération. Pour avoir coaché des jeunes coureurs et des anciens coureurs, rappelle-toi.
Il s'est passé des choses dans les tournées d'avant dont on n'a pas entendu parler parce que c'était mis sous les
téléphones. Il y avait des patrons dans le vestiaire aussi.
Sous le silence.
Il y avait aussi des patrons dans le vestiaire.
Ça pétait pas autant.
Enfin, il y a quand même un joueur de l'équipe de France qu'on a retrouvé mort dans son vomi il y a une vingtaine d'années quand même. Donc il s'est passé des choses aussi.
Ok, je reprends la main et juste pour répondre à Fred par rapport à Fabien Galthié, moi j'aurais aimé et j'aimerais l'entendre sur justement peut-être qu'il n'est pas responsable évidemment de tous les maux du 15 de France, mais sur cette dernière sortie, le dernier jour après le troisième match, eh ben t'as envie de l'entendre en disant moi j'ai dit aux mecs, je les ai tous rassemblés dans une salle et je leur ai dit vous sortez pas. Et ben après si les joueurs sortent même, ils s'écartent de l'équipe de France, mais au moins t'as envie de l'entendre à un moment donné.
Totalement.
Bref.
Mais parce que tu penses que ça s'est pas
passé. Sachez que sur RMC on a fait la demande pour avoir Fabien Galthié et on verra s'il accepte de parler ou pas. Merci beaucoup Winnie Claret d'avoir été avec nous. C'était la dernière de Winnie Claret, je pense qu'on peut l'applaudir. C'était la dernière sur RMC de Winnie Claret qui va voguer vers de nouvelles aventures.
Pour te dire la vérité, je suis très très mal parce que souvent j'envoyais un message à Winnie pour m'aider sur le rugby, malheureusement ça va être compliqué.
Mais tu peux toujours.
Mais c'est vrai, d'Afrique du Sud, moi je t'enverrai. Il y a pas de décalage horaire.
OK, ça marche.
Tu pars en Afrique du Sud, bravo, quelle carrière pour justement être reporter pour Picsou Magazine.
Tu as tout dit, merci.
Et évidemment, je ne suis pas boss ici, mais tu reviens quand tu veux chez nous.
Merci
d'avoir été avec nous.
Et merci RMC, je vous adore.
Tu pars pendant combien de temps?
Oula, je vais voguer pour de longues années à l'étranger. Mais je n'oublierai jamais RMC.
Merci beaucoup Winnie Claret, c'est ta dernière journée.
Bonne
évidemment,
chance,
on va te retrouver sur l'antenne aujourd'hui. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour un autre débat qui va beaucoup faire parler. C'était la punchline de Luis Enrique cette semaine.
Attends, mais pour sortage,
ça donnait
quoi?
Le score, je vais te donner dans quelques instants. Maxime Abolin, le producteur, va me donner dans le casque tranquillement. Je suis en train de meubler. C'est 57-43, Fred a gagné 1%. Bravo mon Fred, tu t'es bien battu.
Merci un moment.
Allez, à tout de suite sur RMC, Luis Enrique.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h35 de retour dans les grandes gueules du sport. Une émission particulièrement animée, un débat extrêmement chaud sur Fabien Galthié. Est-il fragilisé il y a quelques instants? Vous pouvez d'ores et déjà aller le réécouter en podcast. C'est votre émission le samedi, le dimanche jusqu'à midi avec Christophe Cessieux, Jérôme Pinault, Marion Bartoli, Fred Weiss. Dans 10 minutes maintenant, la crise de la soixantaine, c'est votre nouvelle séquence. Christophe Cessieux vient piquer sa crise. À vous de me dire si c'est dû à la crise de la soixantaine ou s'il a parfaitement raison. Notre Christophe Cessieux national, c'est dans 10 minutes. Si on me proposait de réduire mon salaire de 25% pour ne plus avoir à parler aux médias, je le ferais. Luis Enrique n'aime pas la presse et il ne s'en est jamais caché. Dans un documentaire réalisé par Movistar Plus, qui sortira dans quelques jours, le 30 septembre prochain, et qui lui est consacré, l'entraîneur du PSG va même plus loin en mettant, vous l'avez entendu, de l'argent dans la balance. Mais tout compte fait, 25% ce n'est peut-être pas assez. Qui dit plus? Eh bien Luis Enrique, en conférence de presse, en personne, c'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Je passe vraiment un bon moment avec vous. Honnêtement, je m'amuse beaucoup en parlant avec la presse. Je n'ai jamais écourté une seule conférence de presse. Je dis tout ce que j'ai à dire. J'adore parler. En plus, je peux la faire dans plusieurs langues, parfois mal, mais je le fais. Mais c'était une réflexion spontanée. Et c'est vrai, si tu me dis maintenant que je signe un papier et que je n'ai plus à parler à la presse, même si on me retire 50% de mon salaire, je le ferai, surtout après les matchs, parce que je n'ai plus d'énergie pour supporter certaines choses. Mais encore une fois, je passe un bon moment avec vous et je pense pour vous, ça ne doit pas être si désagréable avec moi.
Oui, maintenant je passe.
Ok, il est prêt donc à mettre 50% dans la balance. Qui dit plus là, les copains? Ah non, là, il n'y a plus personne. Là. Alors, est-ce que c'est un discours entendable ou insupportable? Jérôme Pinault.
C'est insupportable.
Christophe Cessieux.
Le discours est entendable, mais c'est la position qui est indéfendable.
Ok. Fred Weiss.
Insupportable.
Insupportable. Marion Bartoli.
Totalement insupportable.
Marion. Marion est encore sur Fabien
Galthié.
Ah, mais on
a dit arrivé, d'accord.
Totalement insupportable. Pour une fois, je vais commencer par Jérôme Pinault. Vas-y, pourquoi insupportable?
Non, mais parce que insupportable, parce que déjà, tout à l'heure, je l'ai évoqué, c'est ton job. C'est ton job. Tu viens entraîner le Paris Saint-Germain, t'es entraîneur professionnel, t'es sportif professionnel, tu sais qu'il y a des interviews avant match, après match, et que tu vas passer autant de temps à préparer tes matchs, à les faire exécuter, qu'à répondre à la presse. C'est ton job. Et ça me paraît encore plus insupportable avec Luis Enrique. Pourquoi? Parce que ce mec, il est, en plus d'être entraîneur du Paris Saint-Germain, il a été sélectionneur de l'équipe d'Espagne pendant la Coupe du Monde, pendant qu'il était sélectionneur, l'Euro, la Coupe du Monde, il faisait lui-même un podcast. C'est-à-dire que le mec, il se dit insupporté par les questions, être obligé de répondre à certaines questions, mais une fois que ça c'est fini, il se remet en scène.
Oui, mais il filtre la presse. C'est-à-dire qu'il est, ce sont des amoureux de l'équipe d'Espagne qui posaient des questions.
C'est un amoureux de briller, d'être en avant. La preuve, c'est aussi, comme tu l'as dit, il le dit à la conférence de presse où il augmente les 25 à 50%, mais l'info, elle sort d'où ? Elle sort d'une série qu'on va tourner sur lui-même. C'est-à-dire que ça ne suffit pas, interview son podcast, on va encore. Si t'as pas envie d'être à l'image, si t'as envie, là j'en ai marre d'entendre, oui mais moi je fais mon job, ça c'est pas, le reste, faut pas m'en parler. Mais bien sûr que si, tu kiffes tellement ça que tu te mets encore à l'image,
je suis d'accord avec toi sur le principe, sauf que qu'est-ce qui se passe ? C'est que là tu parles de deux choses différentes. Tu parles de l'intervention après match qui peut être contraignante et l'autre où tu te mets en scène où tu fais ce que tu veux.
Mais t'entraînes l'une des meilleures équipes d'Europe, on te pose des questions sur son jeu. C'est ton job de répondre.
Christophe voulait te répondre.
C'est exactement ça en fait. C'est que il y a deux sortes de médiatisation. Il y a la médiatisation désirée, c'est-à-dire que tu le fais avec des gens que.
Des
gens de confiance et du public reportage. On va te caresser dans le sens du poil et on va te dire que t'es le meilleur, t'es le plus beau et te faire raconter des belles histoires. Et les interviews de journalistes à la fin d'un match quand tout n'a pas été pour le meilleur des mondes et que tu poses des questions un peu chiantes. C'est pénible de répondre.
Je te dis ça pour ça parce qu'en fait il passe son temps à dire du bien de lui-même face à des gens qui l'adorent et qui l'adulent, puisque il fait des reportages, il fait des podcasts. Ce qui le gêne, c'est qu'on lui pose des questions quand il va pas bien, quand ça va pas bien, ce qu'il fait. C'est donc encore plus insupportable qu'il puisse le dire. À côté de cela, il faisait rien et que l'exercice presse, qui est pas donné à tout le monde d'être bon devant, à la limite il aimait pas ça. Ok. Mais à côté de ça, il va en faire des tonnes sur lui-même. Mec, si t'aimes te mettre en avant, si t'aimes dire que moi, Luis Enrique, je viens en vélo, je m'arrête, on me fait des trucs, je fais des podcasts, des séries. Bah, quand ton job, c'est aussi de répondre
Il peut être très bon lorsqu'il a envie de répondre aux journalistes. Et je comprends pas, mais c'est sa position initiale de Luis Enrique. Il a décidé que les journalistes l'emmerdaient et que depuis qu'il est entraîneur, et même quand il était joueur, paraît-il, il était comme ça, il se met en confrontation. C'est-à-dire qu'il va, il va à la guerre avec la presse qui lui pose des questions. Je ne comprends pas, moi, cette attitude.
Il a une haine envers
ça. Regarde les garçons. Il y a d'autres garçons, des entraîneurs, peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait la même pression qu'à Luis Enrique, mais un Antoine Comboiré, un Roland Courbis, s'amusaient avec la presse. C'était le jeu du chat et la souris. Et tu arrivais franchement à ce que les conférences de presse soient très agréables et tu apprenais des choses et tu te marrais. Et les spectateurs, parce que le but du truc, c'est les gens qui lisent ou qui regardent ton programme et prennent du plaisir. Quand tu es supporter du PSG, tu aimes bien voir ton entraîneur, peut-être heureux, et nous expliquer des choses.
C'est très juste.
Mais le voir en opposition totale et envoyer bouler les journalistes, est-ce que ça.
Les conférences de presse d'après-match avec Enrique.
Je rappelle juste que je suis d'accord avec vous depuis le début.
Oui, non, mais concrètement, c'est d'une tristesse absolue. Parce que
pas tout à fait exactement.
Il se passe avec tout le monde. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'il dit je suis prêt à renoncer à 50% de mon salaire. C'est que réfléchis un tout petit peu, c'est que tu l'aurais même pas. C'est-à-dire que c'est le fait que le sport soit tellement populaire que ça demande aux journalistes de t'interroger tout le temps parce que ça veut entretenir les supporters, etc. Mais si le sport était beaucoup moins populaire, nous au basket, on rêverait de répondre beaucoup plus aux médias pour pouvoir avoir plus d'argent dans le sport et pour pouvoir faire progresser notre sport. Sauf qu'à un moment, il faut se rendre compte des réalités, et je suis d'accord avec toi, Jérôme. À un moment, il faut se dire mon métier, c'est entraîner, oui, mais une grande partie de ce métier, c'est aussi communiquer pour l'équipe, pour moi, pour que tout le monde l'écoute, pour faire vivre la presse qui nous fait vivre aussi en retour.
Ce qu'a évoqué Christophe est très intéressant, c'est qu'il faut bien que les gens derrière le micro, les sportifs, hein, les entraîneurs, etc., quand ils répondent à des questions, ils font face à des hommes et des femmes qui posent des questions pour les lecteurs, pour les auditeurs. C'est pas face à ces gens-là, c'est pas que pour eux. Ils sont tellement, les gens qui répondent à ces questions, égocentrés sur eux-mêmes, qu'ils pensent pas que derrière, il y a des gens qui s'intéressent à la réponse qu'ils vont donner. Il y a des gens qui vont s'intéresser à pourquoi le système de jeu aujourd'hui, des passionnés, c'est des milliers de lecteurs, des milliers de téléspectateurs.
Bien sûr.
Et ces gens-là sont tellement égocentrés, rendus à faire du podcast de la vie, que sur eux, qu'ils s'adressent même plus à tout le monde, en fait. Mais c'est leur job de s'adresser à tout le monde.
Marion, pour toi, c'est aussi insupportable.
Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour moi, en plus, le canal de communication entre le coach qui incarne le club et les supporters, c'est bien évidemment les médias, dont en particulier les conférences de presse d'avant ou d'après match. C'est un canal de communication avec tes propres supporters. Et si tu as envie justement de faire passer des messages sur le type de jeu que tu veux développer, sur ce que tu veux mettre en place, sur la nouvelle philosophie du PSG, c'est par là que tu le fais passer. Ça a très bien été dit par Jérôme et Fred. Si aujourd'hui le foot est autant suivi, qu'il y a autant de... ça a une économie qui est brassée, qui est énorme autour du foot, c'est parce qu'il y a beaucoup d'émissions autour des débats autour du foot, c'est parce qu'il y a énormément de presse qui couvre le foot. C'est tout ça qui génère ce volume financier. S'il n'y avait pas toutes ces personnes qui étaient addictes et qui voulaient absolument suivre leur équipe ou suivre les résultats ou suivre ce qu'un entraîneur va déclarer, il n'y aurait pas du tout des volumes financiers pareils. Donc tu ne peux pas d'un côté vouloir prendre effectivement le meilleur de ton sport et de l'autre prendre tous les journalistes pour des cons, parce que c'est vraiment la manière dont ils les prennent. Mmh. Ils les prennent de manière frontale en disant vous êtes complètement arriérés, vous ne comprenez jamais rien à rien, il n'y a que moi qui suis au-dessus de tout. Je trouve que c'est un personnage égocentré mais à un degré absolument infini, qui n'aime que sa personne et que lui, qui ne supporte pas la contradiction. Mais si t'es aussi bon que ça, mais viens nous expliquer ta compo à Newcastle, viens nous dire ben voilà, là j'ai fait ci pour ça, pour ça, pour ça. Après les journalistes seront d'accord ou pas, ils retranscriront ce qu'ils ont envie de retranscrire dans la presse ou pas. Et en plus de surcroît, je trouve ce procès fait à la presse française complètement irréaliste et faux, parce que la presse française n'est pas du tout la plus agressive. Oh, à non. La limite que quand il était joueur.
Il vient d'un pays où la presse elle est pas tendre.
Exactement, et beaucoup plus agressive. Exactement. En Espagne, à la limite, sa période de joueur où il avait fait le transfert de l'ennemi en faisant le transfert entre le Real et le Barça, à la limite que là, il y ait effectivement qu'on les traitait de traite, qu'il ait trouvé ça trop poussé, qu'il y ait des attaques personnelles, qu'il y ait une révulsion contre la presse espagnole, à la limite, éventuellement, je pourrais entendre un petit peu ce discours. Mais là, contre la presse française,
en plus, mais non. Tu peux pas, exactement. Tu peux pas changer de club exactement. Comme ça et
non,
ne
non, mais
pas
tu vois, à la limite, tu dis, bon, écoute, c'est un peu devenu trop personnel. Bon, ok, tu peux l'entendre. Mais là, de la manière dont il le fait, où en plus, un entraîneur, il doit venir expliquer ses choix, il doit venir parler à ses supporters, il doit être le représentant du club. C'est pas Nasser El Khelaifi qui va être le président qui va faire les conférences de presse. Donc, il y a un représentant du club qui est le canal de communication entre le club et ses supporters. Je trouve qu'il met une tension comme ça permanente. Et pour avoir fait, et on l'a fait avec JC pour Bartoli Time l'année dernière, sur des confs éventuellement du PSG où vous avoir posé des questions, on vous met une pression du coup par les attachés de presse. Ah non, mais attention, que deux questions. Hein. Puis attention, ça ne durera que 3 minutes. Puis attention, la question pas trop longue, hein, parce que sinon il répondra pas. Puis la prochaine fois, on ne mettra pas en conférence de presse. Et je trouve cette pression mise aux journalistes et empêcher les médias de faire leur travail qui est absolument insupportable.
Exactement, ils filtrent tout et donc à un moment, tu ne peux plus poser de questions. Bon, en tout cas, Luis Enrique continue de répondre à la presse, mais nous, parfois, on aimerait bien avoir des joueurs, mais le PSG n'envoie plus des joueurs en conférence de presse, non. Hormis avant les matchs de Ligue des Champions. Donc mettez plus Luis Enrique, envoyez des joueurs. Mais là, après, c'est au PSG de trancher à un moment donné. Bref, juste réponse marrante, parce qu'on a. On a dit cette phrase à Antoine Camboire hier en conférence de presse qu'il était prêt à sacrifier 50% de son salaire. Écoutez la réponse d'Antoine Camboire.
Ah, si je gagnais son salaire, oui. Est-ce que c'est une bonne réponse? Si je gagne son salaire, je donne les deux tiers de mon salaire. Ça vous va? Vous connaissez les montants un peu? C'est ce qu'il a dit vraiment? Mais il a dit ça de façon sérieuse? Ah, très sérieuse. Voilà, j'ai répondu.
Voilà. Ben voilà, la pirouette, c'est comme ça, notre Antoine Camboire, on l'aime. Allez les copains, c'est le moment de vous inscrire pour tenter de gagner grâce à Micromania Zing, la super boule RMC avec à l'intérieur une télé, la PS5 et évidemment le jeu eSport FC 25. Envoyez dès maintenant super par SMS au 732-16, super par SMS au 732-16, vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Et dans une heure, il y aura un grand gagnant avec nous et on jouera le super boule RMC. A tout de suite pour la crise de la soixantaine avec Christophe Cessieux.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h50, les grandes gueules du sport très remontées ce matin. Luis Enrique, Fabien Galthié, dis donc Marion Bartoli les a rhabillés en tout cas pour l'hiver. N'hésitez pas à les réécouter en podcast, c'était il y a quelques instants. On est toujours avec donc Marion, Fred Weiss, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux. Et vous le savez, il aura 60 ans le 20 avril prochain. Oui, c'est l'instant Cessieux tout de suite.
RMC.
C'était nul. De tous les points de vue, quoi. Je veux dire, on peut pas faire plus nul.
La crise de la soixantaine.
Oui, moi j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol.
Ah, c'est tous les samedis, Christophe Cessieux vient piquer sa crise. Ou peut-être saluer une performance, on ne sait pas. tout peut arriver. À vous de me dire les GG ensuite, si c'est dû à la crise de la soixantaine ou si notre Christophe a raison. Christophe, tu veux parler de quoi aujourd'hui ?
Alors, vous qui étiez tenniswoman, basketteur, coureur cycliste, vous ne savez pas ce que c'est que vous battre pour entrer dans le programme olympique ou pour y rester. Ben oui, ça vous est tombé tout cru dans le bec. Monsieur Pinault, par exemple, vous savez que le vélo fait partie des meubles olympiques. Il est présent sans interruption depuis 1896, donc normal. Pas besoin de se battre. Pour vous, monsieur Weiss, c'est venu un peu plus tard, hein, 1905 en démonstration à Saint-Louis, avant de faire sa véritable entrée à Berlin, s'il vous plaît, sous les yeux d'Adolf Hitler. Voilà, donc j'espère que vous en êtes fiers. Quant au tennis, évidemment, son histoire olympique a été un peu plus mouvementée. Il faisait partie des sports initiaux, là aussi, à Athènes en 1896. Mais quelques années plus tard, paf, il a été éjecté à l'époque du Baron. On ne transigeait pas avec l'amateurisme, et on sait que la petite balle jaune et l'amateurisme n'ont jamais vraiment fait bon ménage. Il faudra attendre 1988 et la disparition de ses préoccupations pour que les stars de la raquette fassent leur retour. Mais cette présence au programme olympique, elle n'est pas automatique et surtout, elle n'est pas donnée à tout le monde. Cet été, par exemple, seuls les athlètes de 43 disciplines ont pu se produire devant les spectateurs parisiens et surtout les caméras du monde entier. Parmi les oubliés, vous en souvenez sans doute, le karaté, qui a fait une apparition fugace dans le programme olympique. C'était à Tokyo en 2020, avec la victoire de Steven Dacosta, le français. Et puis, à la sortie de ces Jeux, il a été renvoyé à ses chères études, jugé peu divertissant et dans l'incapacité d'attirer de plus jeunes publics. Cette menace d'être éjecté du programme olympique plane sur d'autres disciplines. On pense notamment à la boxe ou encore, et c'est moins connu, au handball. Oui, ce sport qui tous les 4 ans nous ramène depuis des décennies moult médailles et honneurs à nous Français n'est pas assuré de pouvoir garder son rang pendant encore très longtemps. Alors que reproche-t-on au hand ? Tout simplement de ne pas avoir réussi à développer ce sport au-delà de l'Europe. Cet été, par exemple, sur les 12 équipes engagées et dans le tournoi masculin et dans le tournoi féminin, il y en avait que 3. 3 qui étaient en dehors de l'Europe. Et chez les garçons, seule l'Égypte était présente en quart de finale. Autrement, il n'y avait que des nations européennes. Et de cela, le CIO n'en veut plus. Il veut des sports pratiqués partout sur la planète. Alors, pour éviter justement que le hand ne soit mis à la porte d'ici quelques temps, j'ai peut-être une solution. La solution qui pourrait également sourire à d'autres disciplines qui rêvent d'intégrer le programme olympique et qui, jusqu'à présent, restaient à la porte. Cette solution, ce sont les Jeux d'hiver. Oui, pendant que l'été, on se bat pour faire partie de la fête olympique, l'hiver, au contraire, on peine à trouver des disciplines. Le CIO est obligé, pour construire un programme qui tienne à peu près la route, d'intégrer des sports improbables. Alors pourquoi ne pas intégrer aux Jeux d'hiver des disciplines qui se déroulent l'hiver, dont le hand indoor? Vous en avez déjà beaucoup vu des matchs, vous, qui se déroulent en extérieur, mis à part dans les cours de récré? Non, le hand, ça se déroule à l'intérieur, dans des salles bien chauffées, souvent l'hiver. D'ailleurs, les principaux championnats de se déroule quand ? En décembre et en janvier. Le problème, c'est que le CIO a érigé en règle absolue que pour être inscrit aux Jeux d'hiver, les sports concernés doivent être pratiqués sur de la neige ou de la glace. Et là, évidemment, c'est plus compliqué pour le hand, même si ça pourrait être rigolo, ça pourrait être original. Mais on le sait, les principes sont faits pour être violés. Alors pourquoi pas, d'autant que ça pourrait permettre à d'autres sports d'intégrer les Jeux. Je pense notamment au cyclocross, Jérôme. Cette magnifique pratique qui se déroule dans la boue et sous la pluie, évidemment, qui est très spectaculaire.
De moins en moins sous la neige.
Et bien voilà, c'est très rare que ça se déroule sous la neige. Mais elle ne peut pas postuler à intégrer les Jeux d'été parce que évidemment il n'y a pas trop de boue l'été.
Sauf en
Bretagne. Et puis, il y a un autre sport, une autre discipline pratiquée par beaucoup de gamins tous les hivers à l'UNSS. C'est le cross. Tous ces gamins qui vont dans les sous-bois, qui là aussi sont dans la boue, sous la pluie. Eh ben, ils rêveraient sans doute de faire les Jeux Olympiques. Mais là aussi, c'est pas possible parce que c'est une discipline d'hiver. Voilà, avec ma proposition, il y aurait plus de problèmes, il y aurait que des solutions. Tout le monde trouverait sa place dans le programme olympique. Et en plus, ça permettrait, dans le cas du cross, d'avoir une plus grande représentation mondiale en intégrant des pays africains, par exemple. Parce que c'est vrai que quand on parle de Jeux d'hiver, les pays africains ne sont pas très représentés. Il n'y a pas beaucoup de neige, il n'y a pas beaucoup de glace dans ces pays-là. Donc je pense que ça pourrait être une solution. Voilà, je voulais vous mettre ça sur la table et vous proposer et vous demander ce que vous en pensez.
Ok, la crise de la soixantaine. La proposition, surtout de Christophe Cessieux. C'est la crise de la soixantaine ou il a raison ? Vous aimez cette proposition, Fred Weiss ?
Moi, j'adore.
T'adores, ok. Marion Bartoli.
Je vais hésiter à faire une blague, mais je vais être obligé parce que là, c'était tellement ridicule.
Ok, c'était ridicule.
Je suis outré. Okay.
Ouais,
je
n'aime pas la proposition. Jérôme Pinault.
Non, moi, je trouve ça sympa comme proposition.
Ok, Marion, tu n'es pas d'accord. Vas-y, pourquoi ?
Non, mais le beach hand, mais s'il te plaît. Puis bientôt, on va mettre le beach tennis pendant l'été. Et puis comme le tennis, ça joue aussi en indoor, ben on va faire du tennis en hiver. Et puis au pire, pour le handball, tu leur demandes de faire un handball. Triple boucle piqué. Le hand, pardon. Tu lui demandes de faire un triple boucle piqué, un salto arrière avant de shooter. Et puis ça fera comme si c'était du patinage artistique mélangé en du hand. S'il te plaît, restons sérieux, franchement. Non, mais je veux bien qu'on crée des sports comme ça en permanence pour les JO. Déjà, je trouve que c'est beaucoup trop qu'on fait que rentrer des sports comme ça en permanence. Faut arrêter, faut quand même revenir aux sports qui sont iconiques. Et tu en as parlé, Christophe, des Jeux Olympiques. Déjà, je trouve que cette course en avant à rajouter tout le temps en permanence, déjà, ça m'exaspère. Mais là, le hand, le mettre au jeu d'hiver, puis surtout de rajouter du beach hand au jeu d'été.
Au basket, au jeu d'été, moi, je suis ravi qu'il parte au jeu d'hiver.
Non, mais du beach hand, mais s'il te plaît, non, mais bientôt, on va faire concours de bronzage avec un Coca Zéro et une rondelle de citron. Qu'est-ce qui va gagner? Je peux vous dire, j'aurai la médaille d'or à tous les coups. Hein, pour bronzer au bord de la plage, j'ai pas de souci, je suis première. Mais là, non, mais là, faut arrêter, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Je précise que c'est Jérôme Fernandez qui en a parlé sur la chaîne L'Équipe cette semaine et qui a parlé que, justement, la Fédé de Hand envisageait le beach hand au JO d'été. Donc, le hand était menacé et il disait peut-être que les instances réfléchissent à mettre le hand aux Jeux Olympiques d'hiver. Et c'est aussi pour ça que Christophe voulait vous faire cette proposition.
L'UCI milite, c'était le cas au congrès de l'UCI en Zurich avec David Apartheid.
Pour les Jeux d'hiver en 2030, tout le monde est jaloux parce qu'on a le bateau, et de toute façon, le CIO a intérêt
à réfléchir à ces disciplines qu'ils exigent de glace ou de neige, parce que pour la glace on peut en faire, pour la neige ça va être un vrai problème dans les années à venir.
Ok, venez nous dire ce que vous en pensez au 32-16 si vous aimez la proposition de Christophe Cessieux. Merci Christophe, on se retrouve dans quelques instants avec ce débat. Le sport d'aujourd'hui est-il en train de tuer les sportifs? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.